Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant la prière. Et nous sommes à l'étude numéro 21. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Devons-nous nous tourmenter ?» Et deuxièmement, « Dieu exauce-t-il vraiment nos prières ?» Chers amis, la prière ne peut être mesurée ni à sa durée, ni à son degré d'intensité. Et bien entendu, voyez-vous, tout cela, c'est quelque chose que nous devons essayer de comprendre. Des âmes très sincères, du reste, qui lisent de la littérature sur des hommes comme le Hyde priant, demanderont peut-être avec anxiété, « Attendons de moi que je prie pareillement ?» Voyez-vous, elles entendent parler d'autres croyants qui restent parfois toute la journée ou même la nuit entière à genoux devant Dieu, refusant toute nourriture et méprisant le sommeil. Et ceci pendant qu'il prie et continue de prier. Aussi, elle se pose naturellement cette question, devons-nous faire la même chose? Sommes-nous tous dans l'obligation de suivre leur exemple? Rappelons-nous que ces hommes et ces femmes de prière ne fixaient pas à l'avance le temps pendant lequel ils voulaient prier. Leur prière durait si longtemps parce que ils ne pouvaient cesser de prier. Certains penseront peut-être qu'avec ce qui figure au CD, ce qui a figuré au CD précédent, que j'ai insinué qu'ils devraient suivre tous ces exemples de ces hommes et de ces femmes exceptionnelles. Chers amis, ne laisse aucune de ces pensées, mon cher ami, ou de crainte te tourmenter, qui que tu sois. Mais sois simplement prêt à faire ce qu'il veut de toi, ce que Dieu veut de toi, ce qu'il t'amène à faire. Réfléchis et prie simplement à ce sujet. Jésus-Christ nous demande d'adresser des prières à notre Père Céleste qui nous aime, évidemment. Aussi, souvenez-vous, ne chantons-nous pas quelquefois « Oh, quel merveilleux amour !» Or, nous ne pouvons pas sonder cet amour. La prière ne nous est pas donnée comme un fardeau à porter ou comme un devoir ennuyeux que nous devons remplir. Voyez-vous, elle doit au contraire être pour nous une joie et une force sans limite. Elle nous est donnée afin que nous trouvions grâce pour être secourus au moment opportun. Il est dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16 « Or chaque moment est un moment opportun où nous avons besoin d'être secourus. » Il est dit « Priez, oui, priez. » Et cela ressemble bien davantage à une invitation à suivre que à un ordre auquel nous devons simplement obéir. Est-ce une corvée? Une corvée pour un enfant d'aller vers son Père céleste ou vers son Père humain pour lui demander tout simplement une faveur. Ah, voyez-vous, comme un père aime son enfant et comme il cherche à lui faire le plus grand bien. Et notre Père Céleste, que croyez-vous ? Celui qui nous aime comme personne peut nous aimer et infiniment plus que n'importe quel Père terrestre. Que Dieu me pardonne si l'une de mes paroles sur ce thème aussi précieux que celui de la prière a blessé le cœur ou la conscience de ceux qui aspirent à en savoir davantage sur la prière. Votre Père Céleste, il sait, il dit ceci, que nous pouvons aller pour avoir pleinement confiance vers lui et nous avons plus besoin d'avoir de la crainte après avoir simplement apporté nos requêtes à notre bien-aimé Père Céleste. Voyez-vous, notre Père dans les cieux, que nous aimons et qui nous aime, et comment ? Il sait tout, absolument tout à notre sujet. Il voit et il sait le peu de loisirs que certains d'entre nous ont, surtout aujourd'hui avec l'Internet et tout le reste. Et il sait très bien que nous sommes limités actuellement comme jamais, ce n'était pas le cas autrefois. Que Dieu nous préserve, chers amis, de pécher contre le Seigneur en ne priant pas assez pour ceux qui nous ont été confiés. C'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. Mais c'est valable également aujourd'hui, bien entendu. Oui, c'est parfois tout simplement notre tâche, et même la tâche de notre vie, de prier. D'autres ont des amis qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur ami. Ils ne peuvent faire autrement que de prier pour eux. Et quand nous sommes responsables, responsables d'âme, eh bien, nous ne demandons jamais « Combien de temps dois-je prier aujourd'hui ?» Chers amis, ne devrions-nous pas faire connaître la prodigieuse vie de prière de l'apôtre Paul à tous ceux qui semblent n'avoir aucune possibilité de s'isoler, oh oui, et qui n'ont même pas l'occasion de se réfugier dans une église pour y passer quelques instants dans le silence. Avons-nous jamais réalisé qu'il était en prison, l'apôtre Paul, souvenez-vous, et quand il se mit par écrire la plupart de ces merveilleuses prières que nous possédons de lui, imaginons-le. Notre cher apôtre Paul, il est là, enchaîné, jour et nuit, et ceci à un soldat romain. Il n'était seul à aucun moment. Epaphras était là, et ceci une partie du temps, et il a eu un aperçu de la passion de son maître pour la prière. Il se peut même que Saint Luc ait été là aussi. Quelle réunion de prière! L'occasion de prière en secret ne se présentait jamais. Non. Mais combien devons-nous à l'élévation de ces mains qui ont été liées, enchaînées? Même si toi et moi ne sommes jamais ou très rarement seuls, nos mains ou moins ne sont pas liées avec des chaînes, nos cœurs ne sont pas enchaînés et nos lèvres non plus, Pouvons-nous trouver du temps pour la prière, chers amis? Dieu ne nous demande pas l'impossible, oh non! Pour beaucoup d'entre nous, une faiblesse physique est ce qui peut nous empêcher de rester longtemps dans un esprit de prière intensif. La position dans laquelle nous prions a très peu d'importance. Dieu nous écoutera, que nous soyons à genoux, debout, assis, en train de marcher ou de travailler. Néanmoins, je sais très bien que beaucoup ont attesté le fait que Dieu donne assez souvent une force spéciale à ceux qui réduisent leurs heures de repos pour pouvoir prier davantage. C'est pour moi un regret permanent d'avoir laissé passer les jours de la jeunesse et de la vigueur sans avoir davantage mis à profit toutes ces heures de prière, et cela déjà tôt le matin. Le commandement inspiré qui nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 « Priez sans cesse » est suffisamment clair. Oui, notre Seigneur a dit que l'on devait toujours prier et ne pas se relâcher. Saint Luc chapitre 18 verset 1. Cependant, n'y a-t-il pas toujours, dans le courant de la journée, des occasions d'élever les mains saintes ou au moins des cœurs saints en adressant des prières à notre Père céleste? Saisissons-nous l'occasion chaque jour, quand nous ouvrons les yeux, de louer et d'adorer notre Seigneur? Pour les chrétiens, chaque jour est un jour de Pâques. Nous pouvons prier pendant que nous nous habillons, et comment? Et sans aide mémoire, et nous l'oublions souvent. Colle simplement, mon cher ami, un morceau de papier dans un coin de ton miroir, par exemple, portant ces mots « Priez sans cesse » et faisant l'expérience. Souvent, il est possible de prier entre les différentes tâches. Pourquoi pas? Moi, j'ai essayé de le faire et ça marche très bien. Nous pouvons prier pendant que nous travaillons. Le lavage et les écritures, le raccommodage et même les soucis, la cuisine et le nettoyage, ils iront alors beaucoup mieux nos problèmes si nous nous mettons simplement à prier. Et ce que les jeunes enfants, tout comme les plus grands, ne travaillent et ne jouent pas mieux quand l'un de leurs parents les observait avec amour? N'est-ce pas une aide pour nous de penser que le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec nous et qu'il nous observe? Pas seulement cela, il nous aide aussi. Le seul fait d'avoir conscience que son regard est sur nous nous donne l'assurance de sa puissance en nous. N'est-ce pas aussi notre avis que l'apôtre Paul pensait à ce genre de prière constante et non à des moments de prière fixe quand il disait « Le Seigneur est proche ». Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce, nous dit-il dans Philippiens chapitre 4. Donc, en toute chose, ne signifie-t-il pas que nous devions, au fur et à mesure que les choses nous arrivent, de moment à moment, en faire un sujet de prière et de louer le Seigneur qui est proche. Pourquoi devrions-nous absolument limiter ce proche à l'avènement de Jésus qui est peut-être que dans 8 ans? Si, par exemple, ce fameux merveilleux Thomas Brown, qui était un médecin très réputé, avait acquis cet esprit de prière. Ah oui, il l'avait acquis, Sir Thomas Brown. Et croyez-moi, il a fait le vœu de prier dans tous les lieux et même dans chaque maison et sur chaque route ou chemin. Il ne fallait pas qu'il y ait dans toute la ville une seule rue qui ne puisse témoigner qu'il n'avait pas oublié Dieu et son merveilleux Sauveur. Il ne fallait pas non plus qu'il y ait une ville ou un village dans lequel il soit allé et qui ne puisse rendre le même témoignage. Oh non! Il voulait saisir l'occasion de prier à chaque fois qu'il apercevait une église, oui, et de prier journellement et pour chacun de ses malades en particulier, de même que pour toutes les personnes malades, quel que soit le médecin qui les soigne. Aussi, en entrant dans la maison d'un malade, il allait simplement dire ceci, que la paix et la miséricorde de Dieu soient dans cette maison. Et après chaque prédication, il voulait se recueillir, et ceci afin de demander la bénédiction de Dieu et de prier pour le pasteur. J'ai dit précédemment dans un CD que prier était un acte aussi simple que celui d'un petit enfant demandant quelque chose à son père. Aussi, une telle remarque n'aurait certes pas besoin d'autres explications si cela n'était rendu nécessaire par l'existence du malin. N'oublions jamais le malin. Il ne fait absolument aucun doute que le diable s'oppose à ce que nous nous tournions vers Dieu en priant et il fait tout ce qu'il peut pour empêcher la prière de la foi. Voyez-vous, le moyen qu'il emploie en général pour nous détourner de cela et de remplir notre esprit avec la pensée de nos besoins, de sorte que nous ne soyons plus du tout occupés par la pensée de Dieu, la pensée de Dieu qui est notre Père Céleste, à qui nous adressons nos prières. Oh oui, croyez-moi, le diable veut que nous pensions beaucoup plus aux dons qu'au donateur. C'est pas la même chose. À peine avons-nous dit « Oh Dieu, bénis mon frère », que déjà nous nous laissons absorber par la pensée du frère, de ses affaires et de ses difficultés, de ses espoirs et de ses craintes. Et la prière s'arrête là. Il est un fait, croyez-moi, que le diable nous rend difficile de nous concentrer sur Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle nous exhortons les gens à se faire une idée de la gloire, de la puissance et de la présence de Dieu. Et ceci avant qu'ils ne lui exposent l'objet de leur demande. Voyez-vous, si le diable n'existait pas, il n'y aurait pas non plus de difficultés. C'est en effet le but principal du malin de rendre la prière impossible. Et voilà pourquoi nous trouvons si difficile de partager l'avis de ceux qui déclarent condamner ce qu'ils appellent de vaines répétitions et beaucoup de paroles, et ceci pour parler dans les termes du sermon sur la montagne. Voyez-vous, un éminent pasteur londonien, il a dit un jour ceci: Dieu ne veut pas du tout que nous gaspillions son temps et le nôtre avec de longues prières. Nous devons être méthodiques dans nos rapports avec Dieu et simplement lui dire clairement et brièvement ce que nous voulons et puis laisser l'affaire où elle en est. Mais alors, notre ami voudrait-il dire que la prière ne sert qu'à faire connaître nos besoins, que nos besoins à Dieu ? Si c'est tout ce qu'elle englobe, nous n'avons vraiment pas besoin de la prière. Car notre Père Céleste, croyez-moi, il sait tout à fait de quoi vous et moi avons besoin, avant même que vous le lui demandiez, dit notre Seigneur, en exhortant cependant ses disciples à prier. Nous savons très bien que Christ lui-même a condamné certaines longues prières, et ceci dans Matthieu chapitre 23, verset 14. Mais il s'agissait de longues prières qui ont été faites par hypocrisie et simplement pour l'apparence. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, vous qui priez, croyez-moi, le Seigneur condamnerait pareillement beaucoup de nos longues prières faites chaque semaine dans nos réunions de prière, des prières qui parfois tuent même l'esprit de prière et se terminent en donnant l'illusion que Dieu est disposé à entendre ses faibles soupirs et paroles indignes. Oui, Dieu ne condamne cependant pas du tout des longues prières quand elles sont absolument sincères, venant du plus profond de notre cœur et de notre esprit. N'oublions pas que notre Seigneur, il a passé des nuits entières à prier. Là, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des longues prières. La Bible fait le récit de l'une de ces nuits, mais nous ne connaissons pas la fréquence avec laquelle elle se représente. Et elles se sont même répétées, ces prières, durant une longue nuit. Et ça, c'est facile à comprendre. Quelquefois, vers le matin, Jésus-Christ se levait et il allait dans un lieu désert. Dans un lieu désert, pour prier. C'est écrit dans Saint Marc, chapitre 1, verset 35. Voyez-vous, contrairement à ce que nous pourrions penser dans notre ignorance, Jésus-Christ ne s'est pas libéré de la prière, bien qu'il ait dû répondre aux pressants appels de son ministère et apporter son aide en d'innombrables occasions. Après l'une de ces journées très chargées, au temps où sa popularité avait atteint son apogée, alors que tout le monde rechercher son contact et son conseil, il tourna le dos à tous et il se retira sur une montagne, et ceci pour prier, selon saint Matthieu chapitre 14, verset 23. Oui, il nous est fait le rapport suivant, que les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et puis vient cette fameuse remarque, et lui, il se retirait dans le désert et il priait. Saint Luc chapitre 5, verset 15. Pourquoi cela ? Parce qu'il savait que la prière était en l'occurrence beaucoup plus, oui, beaucoup plus efficace que simplement le service qu'il rendait à tous ces malades. Nous disons que nous avons trop de travail pour prier, d'accord. Pourtant, plus notre Seigneur était occupé, plus il priait. Parfois, il n'avait pas assez de temps libre pour pouvoir manger. C'est authentique. Lisez Saint Marc chapitre 3, verset 20. Et même, il lui arrivait d'avoir à peine le temps de prendre le repos et le sommeil nécessaires, selon Saint Marc chapitre 6, verset 31. Cependant, il prenait toujours le temps de prier. Si la prière fréquente et parfois de longues heures de prière était bel et bien nécessaire à notre Seigneur, je vous pose la question, comment pourrions-nous alors, nous, en avoir moins besoin? Ça donne à réfléchir, non? Je n'essayais pas de persuader les gens d'adopter mon opinion, ce serait une piètre affaire. Pour nous, c'est la vérité qui importe. Le fameux Spurgeon, il a dit un jour, cela ne nous sert à rien de tâter le terrain et de ne pas dire clairement au Seigneur ce que nous désirons recevoir de sa main. Il n'est pas non plus opportun de faire de belles phrases. Demandons à Dieu de la manière la plus simple et la plus directe ce que nous désirons vraiment. Moi, je crois aux prières d'affaires. Et oui, je veux dire par là des prières dans lesquelles nous présentons à Dieu l'une des nombreuses promesses qu'il nous a faites dans sa parole en nous attendant à ce qu'elle soit réalisée ou si certainement que nous touchons de l'argent à la banque pour un chèque. Il ne nous viendrait certes jamais à l'esprit d'aller à la banque et de nous pencher avec nonchalance au-dessus du comptoir et de parler avec l'employé de banque de toutes sortes de choses, sauf du motif réel de notre déplacement, et de nous en aller ensuite sans l'argent dont nous avions tellement besoin. Nous présenterions bien au contraire à l'employé l'ordre selon lequel une certaine somme doit être versée au porteur, et nous lui dirions alors de quelle façon nous voulons toucher le montant. Après avoir obtenu la somme, nous irions notre chemin pour traiter d'autres affaires. C'est une illustration très exacte de la méthode suivante dans laquelle nous pouvons avec certitude recevoir de l'aide de la banque du ciel. Et cela n'est-il pas merveilleux? Voyez-vous, est-ce qu'un employé de banque me permettrait ou me remettrait surtout l'argent au guichet, hein? Je vous pose la question. Si j'avais à côté de moi, par exemple, un voyou très vigoureux, de mauvaise allure et surtout armé, et qu'il supposerait être même un dangereux criminel n'attendant que de s'emparer de l'argent avant même que mes faibles mains puissent prendre cet argent. On se l'imagine mal, hein? Aussi, la Bible nous enseigne qu'il y a quelqu'un qui est ce bandit armé. C'est Satan. Il peut empêcher nos prières d'une manière ou d'une autre et en retarder l'exaucement. L'apôtre Pierre ne s'empresse-t-il pas d'attirer l'attention des chrétiens sur certaines choses afin qu'elles ne puissent pas faire obstacle à leur prière? C'est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Nos prières peuvent vraiment être empêchées. Ah oui, voyez-vous, le malin, le diable, vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur, selon Matthieu chapitre 13, verset 19. Donc, la Bible nous donne un exemple, et probablement un parmi beaucoup d'autres, où le malin retient carrément, et même qu'il retarde de plusieurs semaines l'exaucement d'une prière. Nous ne mentionnons cela que pour montrer la nécessité de renouveler la prière et de prier avec persistance. Qu'est-ce qu'il est dit dans Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13? Il est dit que Daniel ne craint point. Daniel ne craint point. C'est ce qui nous est dit. Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, eh bien tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens et le chef du royaume de Perse m'a malheureusement résisté 21 jours. Mais voici que l'archange Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Voyez-vous, nous ne devons pas fermer les yeux sur cette opposition satanique faisant obstacle à nos prières. N'oublions jamais que les anges peuvent nous aider. Si nous devions nous contenter de demander simplement à Dieu une seule fois quelque chose qui nous a été promis ou que nous jugeons nécessaire, ces chapitres de la Bible, eh bien, ces chapitres de la Bible n'auraient jamais été écrits si ce n'était pas pour nous apprendre des choses bel et bien très précise. Ne devrions-nous jamais renouveler les demandes que nous faisons à Dieu? Moi, je sais par exemple que Dieu ne veut pas du tout la mort du pécheur, ça c'est certain. Et c'est pourquoi j'ai la hardiesse de prier ainsi. Ô Dieu, sauve mon ami ou mon amie. Ne devrais-je donc jamais prier de nouveau et répéter cette prière pour sa conversion? Voyez-vous, George Müller, il a prié chaque jour et souvent, et ceci pendant 60 ans, nous est-il dit dans son témoignage, et ceci pour la conversion d'un ami. Quel éclaircissement la Bible donne-t-elle donc sur les prières d'un genre propre aux affaires? Notre Seigneur nous a donné deux paraboles pour nous enseigner la persistance et la persévérance dans la prière. L'homme qui, par exemple, rappelez-vous, en pleine nuit, à minuit, est-il dit. Il est allé demander 3 miches de pain à son ami et il a obtenu ce dont il avait besoin. Pourquoi ? À cause de son insistance ou persistance, c'est-à-dire, on peut dire de son importunité, au sens littéral du mot. C'est écrit dans Saint Luc chapitre 11, verset 8. Et que penser de la veuve qui importuna le juge inique en venant sans cesse, je répète, en venant sans cesse, et elle finit par obtenir son droit. Notre Seigneur ajoute, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Saint Luc chapitre 18, verset 7. Combien, oui, combien, chers amis, notre Seigneur s'est réjoui à propos de la pauvre femme cananéenne qui ne voulut pas accepter comme réponse les simples refus et le fait d'être renvoyée. Ah non! Et c'est à cause de l'insistance qu'elle a mis. Elle a mis de l'insistance et de la persévérance à continuer de demander. Et, tout à coup, le Seigneur, il dit, « Ô femme, ta foi est vraiment grande, aussi qu'il te soit fait comme tu veux. » Saint Matthieu, chapitre 15, verset 28. Même notre Seigneur, dans son angoisse à Gethsémané, trouva nécessaire de redire plusieurs fois sa prière. Il les quitta et il s'éloigna et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles, nous est-il dit dans Saint Matthieu, chapitre 26, verset 44. De même l'apôtre Paul, qui est, on peut le dire, qui est l'apôtre de la prière, il demande en plusieurs fois il a demandé à Dieu de lui retirer les chardes qu'il avait dans la chair. 3 fois, dit-il, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Dieu ne peut pas toujours nous accorder immédiatement ce que nous lui demandons. Parfois, nous ne sommes pas aptes à recevoir le don. Quelquefois, il dit non, pas par méchanceté ou parce qu'il nous méprise, pas du tout, mais simplement pour nous donner quelque chose de beaucoup meilleur. Pensons par exemple au jour que l'apôtre Pierre a passé en prison. Si notre fils était emprisonné injustement, s'attendant à devoir mourir d'un moment à l'autre, nous contenterions-nous alors ou pourrions-nous nous contenter d'adresser une seule fois une prière d'un genre propre aux affaires en disant « Ô Dieu, délivre mon enfant des mains de ces vilains hommes. » Ne nous mettrions-nous pas à prier abondamment, à intercéder, à crier, à pleurer peut-être même, et ceci avec ferveur? C'est précisément de cette façon-là que l'Église pria pour l'apôtre Pierre. L'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Actes, chapitre 12, verset 5. En étudiant la Bible, nous pouvons constater qu'un traducteur dit sans cesse, alors que les autres traduisent par ferveur intense. Voyez-vous, notre Seigneur qui pleura sur Jérusalem et présenta avec de grands cris et même avec des larmes de prière et de supplication, nous est-il dit dans Hébreux chapitre 5 verset 7, ne sera pas du tout offensé s'il nous voit pleurer à propos de certaines choses, à propos des égarés, de ceux qui sont perdus. Non, 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 non. Ne se réjouira-t-il pas plutôt en voyant notre tristesse à cause du péché qu'il offense? Le nombre insignifiant de conversions dans tant de ministères n'est-il pas dû, en réalité, au manque de lutte dans la prière? Eh oui, il y aurait beaucoup plus de conversions si le peuple de Dieu priait davantage. Oh, comme nos cœurs sont souvent froids, que nous nous soucions tellement peu de ceux qui sont perdus. Nous préférons rester sous notre couette, ou bien au chaud, ce qui n'est pas un péché en soi. Mais devrions-nous pas nous lever, nous mettre à genoux, même si nos genoux nous font un peu mal, comme les miens, et de prier? Oserons-nous critiquer les hommes et les femmes qui éprouvent une vive inquiétude à l'égard des pécheurs en train de se perdre, le plus souvent, hélas, malheureusement, pour l'éternité? Dieu défendrait-il cela? Non, 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 non. Il existe une telle lutte dans la prière, certainement pas parce que Dieu n'est pas disposé à nous exaucer, pas du tout, mais simplement à cause des princes de ce monde de ténèbres. Lisez soigneusement Éphésiens chapitre 6, verset 12, et vous connaissez l'histoire de Daniel. Le véritable mot traduit ici par « lutte » dans la prière signifie à peu près « rivalité ». Le combat n'est pas à mener entre Dieu et nous, pas du tout. Il est un avec nous dans nos efforts. Le combat est simplement et pour toujours, uniquement dirigé contre le diable. Il désire, lui, de contrecarrer nos prières, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notez soigneusement Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous sommes, nous aussi, chers amis, dans ces lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons obtenir la victoire. Cela signifie non seulement de veiller, mais aussi de prier. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 18. Donc, veillez pour prier. Nous sommes réconfortés par le fait que l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faudrait. Romains chapitre 8, verset 26. Donc, si l'Esprit Saint prie en nous, ne devrions-nous pas avoir part à ses soupirs dans la prière? Et si notre lutte dans la prière affaiblit en même temps notre corps, eh bien, croyez-moi, les anges ne viendront-ils pas alors nous fortifier? Ils vont venir à notre secours, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Comme ils le firent pour notre Seigneur. Saint Luc chapitre 22, verset 43. Dans un autre passage, l'apôtre Paul parle d'Épaphras comme étant quelqu'un qui ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfois et pleinement, oui, pleinement persuadé, vous puissiez, dans une entière soumission à la volonté de Dieu, avoir la victoire. Le mot « combat » qui est employé ici, il correspond à peu de choses près à notre mot « agonie ». C'est le même mot qui est utilisé à l'égard de notre Seigneur quand, prions lui-même, il est en agonie, c'est-à-dire qu'il est en lutte avec la mort, selon Saint Luc chapitre 22, verset 44. L'apôtre Paul, il dit encore, « Épaphras a une grande sollicitude pour vous », c'est-à-dire dans ses prières. L'apôtre Paul l'a vu prier en prison et il a été témoin du long combat au cours duquel il déploya ses infatigables efforts en faveur des Colossiens. Comme le gardien auquel saint Paul était enchaîné a dû être surpris, oh oui, profondément impressionné même, en observant ces hommes alors qu'ils priaient, leurs paroles et leurs larmes, leur ardente supplication lorsqu'ils prièrent, ils élevaient leurs mains qui étaient liées. Et cela a dû être pour lui une totale révélation. L'apôtre Paul parlait sans doute de sa propre habitude quand il exhorta les chrétiens d'Éphèse à d'ailleurs à faire en tout temps par l'Esprit Saint toutes sortes de prières et de supplications en veillant avec une entière persévérance et à prier pour tous les saints, ainsi que pour lui, ambassadeur qu'il était enchaîné. Éphésiens chapitre 6, verset 18. C'est donc une image de sa propre vie de prière. Nous pouvons en être bien sûrs. Oui, la prière rencontre des obstacles que l'on peut éliminer à force de prier. C'est ce que nous voulons exprimer quand nous parlons d'aller jusqu'au bout de nos prières. Nous devons lutter contre les machinations de l'ennemi. Il peut s'agir d'une fatigue ou d'une douleur physique ou de certaines pensées qui persistent à nous accaparer, ou même le doute, ou bien simplement les assauts directs d'armées spirituelles des ténèbres. Voyez-vous, pour nous, comme pour l'apôtre Paul, la prière est une sorte de combat, si vous voulez, une lutte carrément, tout au moins quelquefois, ce qui nous oblige évidemment à nous réveiller pour nous attacher à Dieu Ésaïe chapitre 64 verset 6. Aurions-nous tort, chers amis, en osant prétendre que très peu de gens luttent actuellement en priant? N'en est-il pas ainsi dans ce monde aujourd'hui? Ne doutons cependant jamais de la puissance de notre Seigneur et de la richesse de sa merveilleuse grâce. L'auteur du livre intitulé « Le secret du chrétien pour une vie heureuse » raconta à un petit cercle d'amis juste avant sa mort un incident qui s'était produit dans sa propre vie. Il me sera certainement permis d'en faire le récit. Oui, une amie qui lui rendait visite occasionnellement pour 2 ou 3 jours mettait vraiment à chaque fois son humeur et sa patience à l'épreuve. Chacune de ces visites demandait une sérieuse préparation à la prière. Un jour, cette chrétienne très exigeante décida même de rester toute une semaine. L'hôtesse pensa que dans ces circonstances, seule une nuit entière de prière pourrait la fortifier pour cette grande épreuve. Nantie d'une petite assiette de biscuits, elle se retira de bonne heure dans sa chambre à coucher pour passer la nuit à genoux devant Dieu. Elle voulait demander au Seigneur de lui accorder la grâce de pouvoir rester douce et aimable pendant toute la durée de la visite attendue. À peine s'était-elle agenouillée près de son lit que les paroles contenues dans Philippiens 4, verset 18, plutôt verset 19, lui vinrent à l'esprit. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et là, toutes ses craintes ont disparu. Elle dit, lorsque j'ai pleinement eu conscience de cela, je rendis grâce à Dieu et le louai pour sa merveilleuse bonté. Ensuite, j'allai rapidement au lit et j'ai dormi toute la nuit comme un enfant. Le lendemain matin, mon invité arriva. Et sa visite m'a fait vraiment plaisir. Le docteur Moule a dit « La véritable et victorieuse prière est offerte continuellement sans le moindre effort physique ni dérangement. Et c'est souvent dans la plus grande tranquillité du corps et de l'âme qu'elle fait son plus long chemin. La question a toutefois un autre aspect. On ne doit jamais concevoir la prière comme une chose pouvant se faire avec indolence et d'une manière superficielle, tout aussi simple et confiante qu'elle puisse être. La prière signifie un échange infiniment important entre Dieu et l'homme, et c'est pourquoi elle doit très souvent être considérée comme un acte impliquant peine, persévérance et lutte. Ceci pour qu'elle soit réellement une prière efficace. À cet égard, personne ne peut prescrire quoi que ce soit à autrui. Nous devons laisser à chacun sa conviction quant à la manière qu'il juge convenable pour prier. Le Saint-Esprit nous inspire et nous guide, de sorte que nous savons combien de temps il nous faut prier. Soyons donc tous tellement remplis d'amour envers Dieu, notre Sauveur bien-aimé, que la prière puisse être pour nous en tout temps et en tout lieu, aussi bien une joie qu'une grâce. Chers amis, Dieu exauce-t-il toujours nos prières? Voilà une question assez épineuse. Voyez-vous, nous abordons maintenant l'une des plus importantes questions que l'on puisse nous poser. Beaucoup dépend de la réponse que nous pouvons lui donner. Ne craignons pas de répondre à cette question avec franchise et honnêteté. Dieu exauce-t-il toujours nos prières? Naturellement, nous admettons tous que Dieu exauce la prière quelquefois et quelques prières, mais l'exauce-t-il toujours toutes nos prières? Y a-t-il une certitude quelconque en ce qui concerne la prière? Ma profonde conviction est la suivante. Oui, Dieu exauce toujours la prière sincère. Bien des soi-disant prières ne sont pas exaucées parce qu'il ne les écoute pas. Lorsque son peuple se rébella, il a dit « Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. » Ésaïe chapitre 1 verset 15. Cependant, un enfant de Dieu devrait compter sur l'exaucement de ses prières. En effet, voyez-vous, notre Seigneur nous dit cependant qu'elles sont à la disposition de celui qui les demande. Qu'il nous donne donc à tous un bon jugement en ce qui concerne les choses de la prière. Tout en disant qu'aucune véritable prière ne reste sans réponse, nous ne prétendons pas, mais pas du tout, je ne prétends pas à ce que Dieu nous donne toujours précisément tout ce que nous lui avons demandé. Avons-nous déjà vu des parents assez insensés pour traiter leurs enfants de la sorte? Nous ne donnerions certainement pas un tisonnier chauffé au rouge à notre enfant, même s'il crie pour l'avoir. La réponse de Dieu est parfois non. Ce n'est pas nécessairement la preuve qu'il existe dans la vie de celui qui prie un péché manifeste ou intentionnel, bien qu'il puisse très bien s'y trouver un péché ignoré. Quelquefois, il dit non, et même à notre cher apôtre Paul, selon 2 Colossiens chapitre 12, verset 8. Et bien souvent, la raison du refus, c'est simplement notre ignorance et notre égoïsme dans ce que nous demandons, car nous ne savons pas toujours ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, selon Romains chapitre 8 verset 26. C'était en cela que résidait l'erreur qui a été commise par la mère des fils de Zébédée. Elle vint, se prosterna devant le Seigneur et lui fit la prière suivante. Cependant, il s'empressa de lui répondre « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Et souvenez-vous d'Élie, un très grand homme de prière. Il a obtenu parfois un nom, même lui, le fameux Élie, le plus grand prophète de tous les temps. Mais quand il fut enlevé vers la gloire, et ceci dans un chariot de feu. A-t-il encore regretté que Dieu ait parfois dit non lorsqu'il s'écria un jour au Seigneur, « Prends donc simplement ma vie ». La réponse de Dieu est parfois « Attends ». Attends encore un peu. Ainsi, il est possible que la réponse tarde parce que nous ne sommes pas encore aptes à recevoir le don que nous demandons, comme Jacob qui était en lutte, par exemple, rappelez-vous, avec un ange. Nous souvenons-nous de la célèbre prière d'Augustin. Il a dit au Seigneur, « Rends-moi pur, mais surtout pas maintenant. » Comme si je disais, « Je ne ferai plus ce péché, je te le promets, Seigneur, aujourd'hui. » Je n'ai pas dit « demain et après-demain ». Voyez-vous, nos prières ne sont-elles pas quelquefois semblables à cela? Sommes-nous vraiment toujours prêts à boire la coupe, à payer le prix de l'exaucement de nos prières? Il y a des fois un prix à payer. Parfois, il retarde l'exaucement afin qu'il en résulte une gloire d'autant plus grande pour lui-même. Les délais de Dieu ne sont pas des refus. Nous ne comprenons pas pourquoi, certaines fois, il retarde l'exaucement, alors que dans d'autres fois, il répond avant même que nous l'invoquions. Ésaïe 65, verset 24. George Müller, l'un des plus grands hommes de prière de tous les temps, a dû prier pendant une période de plus de 63 ans pour la conversion d'un ami. Qui pourrait en donner la raison? Moi, en tout cas, pas. Le point essentiel est de ne jamais renoncer avant que la réponse ne vienne. C'est ce que disait George Müller. Et voici 63 ans et 8 mois que je prie, dit-il, pour la conversion d'un homme. Il n'est pas encore converti, mais il le sera, j'en suis certain. Comment pourrait-il en être autrement? Nous avons la ferme promesse de Dieu, et c'est sur cette promesse que je compte. Ce délai était-il dû à un empêchement permanent suscité, par exemple, par le diable? Vous pouvez noter Daniel chapitre 10, verset 13. Était-ce la conséquence d'un effort puissant et prolongé de la part de Satan pour ébranler simplement, ou même pour détruire la foi de George Müller? En effet, on peut dire en effet, car à peine George Müller était-il mort, croyez-le, son ami s'est converti, et ceci avant même que l'enterrement de George Müller n'ait eu lieu. Oui, sa prière a été exaucée, bien que la réponse ait si longtemps tardé à venir. Et Dieu a exaucé sa prière. Certains chrétiens semblent mettre leur bon sens et leur raison de côté avant de prier. Un peu de réflexion montrerait que Dieu ne peut exaucer certaines prières, surtout si elles sont totalement égoïstes. Pendant la guerre, rappelez-vous, chaque peuple priait pour obtenir la victoire. Croyez-vous que les Allemands chrétiens n'ont pas prié pour la victoire, comme les autres, et surtout nos amis anglais. Pendant la guerre, chaque peuple priait pour obtenir la victoire, c'est comme ça. Et pourtant, il est bien évident que tous les peuples ne pouvaient être victorieux à la fois. Il n'y en a qu'un seul qui pouvait être victorieux, et pas tous les autres, malgré qu'il y en a qui ont prié. Il se peut que deux personnes habitent ensemble et qu'ils prient. L'une pour la pluie, hein, et l'autre pour le beau temps, parce qu'il faut faire les foins. Mais Dieu ne peut donner les deux choses en même temps et au même endroit. Il le pourrait, mais ce serait pas dans la logique des choses d'aujourd'hui. Voyez-vous, ce qu'il y a d'affligeant dans tout cela, c'est que nous prions souvent et ne recevons rien parce que nous en sommes indignes. Et que nous nous plaignons ensuite que Dieu n'exauce pas nos prières. Le Seigneur Jésus-Christ déclare que Dieu donne le Saint-Esprit qui nous enseigne comment nous devrions prier. Et ceci avec autant d'empressement qu'un père, humain, donne de bonnes choses à ses enfants. Cependant, aucun don n'est une bonne chose si l'enfant n'est pas encore capable, vous avez bien compris, s'il n'est pas encore capable de s'en servir. Dieu ne nous donne jamais quelque chose dont nous ne pouvons ou ne voulons faire usage pour sa glorification. Je ne veux pas parler ici des talents, car nous pouvons en abuser ou même les enterrer. Mais je parle des dons spirituels. Avons-nous déjà vu un père donner à son petit garçon une lame de rasoir lorsque celui-ci l'avait demandé parce qu'il espérait que l'enfant deviendrait un jour un homme et pourrait s'en servir? Un père ne dit-il jamais à son enfant « Attends d'être plus grand » ou plus expérimenté, peut-être aussi plus raisonnable et plus fort. Donc, notre Père Céleste, ne nous dira-t-il pas, par exemple, « Attends encore un peu ?» Ô Seigneur, dans ton amour, refuse-nous toute chose dont tu sais que dans notre faiblesse, nous pourrions en abuser. Je répète, Seigneur, dans ton grand amour, c'est ce que nous devrions prier, dans ton grand amour, refuse-nous toute chose dont tu sais que dans notre faiblesse, nous pourrions en abuser. Sois aussi assuré que le Seigneur n'accorde pas dès aujourd'hui le don qui est pour demain. Lorsque l'œuvre du Saint-Esprit cesse, cela dépend toujours de nous. Il y a des chrétiens auxquels Dieu ne peut confier la plénitude du Saint-Esprit et des ouvriers à qui il ne peut accorder la joie d'obtenir certains résultats spirituels dans leur travail de tous les jours. Eh oui, autrement, il deviendrait orgueilleux, va savoir, et en plus vaniteux. Non, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu accorde à chaque chrétien tout ce qu'il lui demande. Comme nous l'avons déjà vu dans un CD précédent, il faut qu'il y ait de la pureté dans notre cœur. Le motif et les désirs doivent être purs. Si nos prières doivent être faites dans le saint nom de Jésus-Christ. Dieu est beaucoup plus grand que ses promesses et il nous donne souvent au-delà, oh oui, au-delà de ce que nous demandons ou même que nous méritons. Mais il n'agit pas toujours, oh non, toujours selon ce que nous voulons. Donc, si une demande particulière n'est pas accordée, nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous engage à examiner notre cœur. Oui, il désire en effet exaucer toute prière sincère qui est faite en son saint nom. Répétons une fois de plus ces paroles bénies. Nous ne pouvons le faire assez souvent. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Saint Jean 14, verset 13. Rappelons-nous que Jésus ne pouvait pas faire une prière sans qu'elle soit exaucée. Il était Dieu, connaissait parfaitement les desseins de son Père. Il avait la pensée du Saint-Esprit, c'est cela. A-t-il vraiment dit jadis « Mon Père », s'il est possible que lorsque il était en agonie, à genoux, dans le jardin de Gethsémané, et qu'il présentait sa prière avec des cris, il est vrai qu'il était évidemment triste et même en larmes. Oui, il a malgré tout été exaucé à cause de sa piété. Ce n'est certainement pas l'agonie, mais la crainte respectueuse propre à sa position de fils qui amena l'exaucement. Nos prières ne doivent pas tellement leur exaucement à l'insistance que nous y mettons, mais à notre qualité de fils. Chers auditeurs, il nous est difficile de bien comprendre ou de toujours comprendre cette sainte scène qui était pleine de craintes respectueuses et d'émerveillement. Mais ceci, nous le savons. Notre Seigneur n'a jamais fait de promesse qu'il ne puisse pas tenir ou n'eût pas l'intention d'accomplir. Le Saint-Esprit intercède pour nous, selon Romains 8, verset 26. En effet, c'est une chose bien singulière également que la seule prière qui nous soit rapportée comme ayant été faite par l'apôtre Paul alors qu'il désirait quelque chose pour ses propres besoins ne lui ait pas été accordée. La difficulté réside toutefois en ceci. Pourquoi Paul, qui avait la pensée de Christ, a-t-il prié pour une chose étant, comme il le reconnut bientôt, contraire à la volonté de Dieu? Il y a sans doute de nombreux chrétiens entièrement consacrés qui écoutent maintenant ces mots et qui ont ressenti un trouble intérieur parce que Dieu ne leur avait pas accordé certaines choses pour lesquelles ils avaient pourtant prié. L'apôtre Paul fut tenté, en effet, de penser qu'il pourrait faire un bien meilleur travail pour son maître bien-aimé si seulement cette écharde pouvait être enlevée. Cependant, voyez-vous, Dieu savait que Paul serait encore un meilleur, beaucoup meilleur instrument avec l'écharde que sans cette écharde. N'était-ce pas pour nous aussi, en quelque sorte, une consolation de savoir que, le cas échéant, nous pouvons davantage contribuer à la glorification de Dieu en supportant, par exemple, une chose considérée par nous comme une entrave ou un poids, que si cette chose indésirable était éloignée, ma grâce te suffit. Oui, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous pouvons faire et ferons à Dieu des prières peu judicieuses. La plus haute forme de la prière n'est pas « tes voix, ô Dieu », pas les miennes, mais « mes voix, ô Dieu » sont les tiennes. Je répète, nous pouvons faire et ferons à Dieu, par exemple, des prières qui sont pas très judicieuses, telles que la plus haute forme de la prière n'est pas, écoutez bien les mots suivants, tes voix, ô Dieu, et pas les miennes, mais mes voix, ô Dieu, qu'elles soient les tiennes. Nous ne devons pas prier que ta volonté change, mais que ta volonté soit faite. Eh oui. Chers amis, nous allons terminer maintenant par la prière. Et vous savez, vous pouvez faire, vous, dans votre chambre, ou n'importe où, même au bureau, simplement dans votre cœur, une petite prière. Il n'y a pas besoin que ce soit des longues litanies. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu nous dis que tu es la lumière du monde. Tu dis que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Seigneur, tu nous dis, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Oui, auprès de toi est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Merci de nous éclairer, car ta lumière arrive, car l'Éternel sera notre lumière à toujours. Ô Seigneur, nous voulons marcher comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui, Seigneur, tu es notre lumière, et qu'il n'y ait point en toi de ténèbres. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et à bientôt à nouveau, je l'espère. Car cette série sur la prière, elle va continuer encore longtemps. Car la prière est une des choses les plus importantes pour tout un chacun qui se réclame être chrétien. Au revoir.